masculinité pluriel.
Jet et le grand T donnent la parole à quatre artistes et chercheurs sur leur rapport aux masculinités. Être un homme.
Un homme ! Un homme !
Un mec.
Un homme.
Épisode 4. Océan. Comédien, scénariste et réalisateur.
Océan, je te regarde, tu fais très très mec là.
Non mais je fais pas mec, je suis un mec, voilà.
Et maintenant je peux plus te mégenrer.
J'ai compris que j'étais épuisée d'être une femme parce que ce n'était pas en adéquation avec qui je me sentais intérieurement. J'ai donc pris la décision de changer de genre, de m'affirmer telle que je suis, un homme trans.
Nos corps ce sont que des enveloppes.
Faut créer des modèles en fait.
Pour toi c'est ni homme ni femme, c'est
oui, trans. C'est être trans,
c'est être trans.
Je suis comédien, réalisateur, militant féministe. J'ai commencé par la musique avec le nom de Ocean, O-S-H-E-N à l'époque. Après, j'ai fait deux spectacles de solo, en fait deux seuls en scène. Le premier qui s'appelait La lesbienne invisible et ensuite Chaton violent. Et j'ai ensuite fait une comédie romantique lesbienne au cinéma. Bon, j'ai fait plein de petites choses, mais surtout un documentaire sur ma transition de genre. Donc, j'ai commencé en 2017-18. Et ensuite, j'ai fait une saison 2 qui s'appelle En infiltré et qui est aussi sur Slash, sur la diversité des parcours trans et intersexes. Et là, actuellement, je finis là, tout juste la saison 3 qui s'appelle Faire famille et qui est sur la question de comment on fait famille quand on est hors du champ traditionnel.
Et d'un point de vue professionnel, est-ce que vous avez trouvé votre place en tant que comédien ?
Ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire que j'ai toujours fait mes trucs à moi. J'ai toujours un peu tracé ma route. Donc après, j'ai des liens et des amitiés, des solidarités, évidemment, dans mon travail aussi. Mais c'est vrai qu'on m'appelle très peu. Et voilà, aussi parce que je pense que les gens se disent « Ah non, mais lui, il fait ses bails. » Et aussi parce que le milieu du cinéma et du théâtre est quand même globalement... transphobe malgré lui, je dirais, c'est-à-dire qu'on se dit jamais, tiens, si on prenait un mec trans pour jouer un mec cis, enfin, les gens n'ont pas l'idée, en fait, tout simplement parce qu'ils nous voient pas, entre guillemets, comme des vrais hommes, donc c'est très frustrant. Et j'adore jouer des mecs cis, franchement, c'est un gros kiff, quoi. Donc, quand je vois les autres comédiens trans, bon, voilà, personne fait de carrière fulgurante, et après, j'espère que ça changera, donc je pense quand même que ça évolue. Là, c'est vrai que j'avais dit que j'arrêterais de faire des spectacles, mais là, j'ai à nouveau envie de faire un seul en scène, justement sur les hommes. Mais par ailleurs, là, j'écris une série sur les interprètes en langue des signes, donc sur la communauté sourde et les interprètes, voilà, où je serais juste réal, scénariste et réal, et j'ai pas envie de jouer dedans. Et évidemment, dans la série, l'héroïne est lesbienne, il y a ce personnage secondaire trans, il y a un interprète noir. Enfin, évidemment qu'il y a tous les sujets qui m'intéressent. Mais c'est quand même le thème principal, c'est les interprètes en langue des signes et les sourds. J'ai toujours finalement pensé que l'intime était politique. Maintenant, tout le monde le dit, c'est à la mode, mais je crois toujours que quand on est très sincère et très près de soi, finalement, c'est là où on peut être le plus identifiant pour les autres, étrangement. Moi, ce que j'aime, c'est cet endroit... et finalement donc depuis des années maintenant, qui est à la frontière entre ce qu'on appelle le persona, personnage qui est proche de soi, et où j'utilise le réel en le déformant un peu, mais on ne sait jamais ce qui est vraiment vrai, pas vrai. Et finalement, dans toutes mes œuvres, ce persona, cet endroit un petit peu de jeu, c'est un terrain de jeu aussi, entre le réel et la caricature à des moments, voilà, et mon endroit en fait. Je trouvais ça chouette de raconter ce que je vivais, pas tant pour moi que pour les autres aussi, parce que quand je rencontre, par exemple, dans la saison 1, quand je rencontre Charlie, qui est cette femme magnifique, qui est tout d'un coup amoureuse de moi, alors que moi, je suis en début de transition, j'ai l'impression que plus personne ne voudra jamais de moi. Souvent, on a super peur de plus jamais pécho, quoi. Quand on transitionne, on se dit, les lesbiennes voudront plus de moi, quoi. Enfin, quand on est attiré par les femmes, en tout cas, on se dit, les lesbiennes voudront plus de moi, parce que, du coup, je suis un mec, quoi, je deviens un mec, et les meufs hétéros voudront pas de moi parce que j'ai pas un corps de mec cis, donc on a super peur en général. Et donc je trouvais ça bien de dire, mais non, regardez, vous allez trop pécho, ça va être super, et en plus des meufs trop canons et trop chouettes. Donc finalement, c'est pas tant de raconter ma vie que de donner un message, d'envoyer un message aussi positif et joyeux et militant, évidemment, quoi. La possibilité de penser ma transidentité, je dirais, elle est arrivée assez tard, parce que j'ai commencé à 40 21 ans, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de représentation, pas de modèle. Je ne savais même pas vraiment ce que c'était qu'un homme trans, je pense, avant ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le film. C'était pour pouvoir donner un modèle à des jeunes personnes. Même si maintenant, avec Internet, c'est très différent parce qu'on a accès beaucoup plus facilement aux informations et aux ressources. Et finalement, c'est passé par mes lectures féministes, en fait, et mes rencontres avec des militantes féministes. Et c'est tout ce travail, je dirais, plutôt intellectuel de déconstruction de la question du genre, de différencier sexe et genre, de comprendre que le sexe biologique et le genre, c'est deux choses différentes, etc., qui, finalement, m'ont permis de comprendre des choses sur moi aussi et de reconnecter, on va dire, cette pensée théorique à des sensations de corps qui, finalement, étaient là depuis très longtemps ou émotionnelles. Donc, je dirais que, quand même, la pensée straight de Monique Wittig, c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment une œuvre importante. Après, je dirais que Judith Butler est beaucoup plus connue pour son travail sur le genre, mais c'est tellement illisible que moi, je l'ai plutôt, on va dire, lu ou écouté des gens qui la traduisaient en français, c'est-à-dire, enfin, en français intelligible. Je ne me suis pas vraiment tapé tout Butler, je vous avoue. Après, j'ai évidemment lu des extraits, des passages, des choses, mais tout d'un coup, ça m'a permis de comprendre que c'était ça qui était le plus juste pour moi, c'était de faire cette transition et que j'en avais besoin, que j'en avais envie, que voilà, que c'était ça mon aventure maintenant, sans regretter toutes les années que j'ai passées avant socialisée comme femme. Donc voilà, après je précise vraiment, c'est important je trouve de le dire, et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette saison 2, c'est que chaque parcours trans est unique en fait, il n'y a pas une façon d'être trans. Enfin, ce que moi je vais raconter pourra ne pas du tout parler à d'autres gens. Il y a beaucoup de gens de personnes trans qui disent qu'ils ont toujours su qu'ils étaient trans depuis très petit, qui se sont toujours sentis dans le mauvais corps, je mets des guillemets parce que moi c'est pas un vocabulaire qui me parle. Je trouve pas qu'on ait un cerveau, enfin un esprit dans un corps, mon corps est moi. Donc j'utilise pas du tout ce champ lexical, ce genre de narratif, mais il est très pratiqué. Donc voilà, encore une fois, je ne parle que pour moi. Et c'est vrai qu'il y a plein de jeunes maintenant qui transitionnent assez tôt, quoi, qui commencent déjà à prendre des bloqueurs d'hormones à 15 ans. Donc évidemment, moi j'ai pas tellement de points communs avec quelqu'un de 15 ans aujourd'hui qui commence sa transition. Donc voilà, c'est juste. Moi voilà, ça a été un mix finalement de déconstruction, on va dire, théorique et intellectuelle. Et puis après, ça a été des rencontres aussi beaucoup. Parfois, c'est les personnes qu'on rencontre qui nous permettent de comprendre des choses de soi. Quand j'ai commencé à me poser des questions, j'ai tout simplement appelé un pote de pote que je connaissais de loin, qui avait commencé, lui, sa transition depuis un an ou deux. Et en fait, en le voyant même physiquement, enfin, ce que ça m'a fait comme émotion, enfin, je sais pas, ça a été hyper fort, en fait. Et je suis passée par plein d'étapes. Moi, au début, comme beaucoup de personnes trans disaient, non, mais de toute façon, moi, je me ferai jamais opérer, je prendrai jamais d'hormones, j'ai pas du tout besoin. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, si, j'avais envie de prendre des hormones, j'avais envie de changer des choses aussi physiquement, que, ouais, en fait, c'est vrai que j'avais plus envie d'avoir des seins, en fait. Mais voilà, c'est un cheminement, en fait. Et je trouve ça bien d'ailleurs parce qu'on parle assez peu finalement, je trouve dans les médias et tout ça, comme c'est souvent ce que j'appelle le cis gaze qui est très présent, c'est-à-dire le regard cisgenre sur les personnes transgenres, avec tout ce que ça peut avoir d'à côté, d'incompréhension, il y a souvent comme ça cette recherche, même dans les reportages et tout ça, de chercher des narratifs qui soient compréhensibles pour les personnes cis. C'est pour ça que je crois que tout cette espèce de vocabulaire autour du « je suis pas dans le bon corps »,« je sais depuis que j'ai 3 ans que je suis un homme », enfin, à mon avis, il est aussi construit par les cis. C'est-à-dire que ça permet de parler de dysphorie de genre, ça permet de rester dans une forme de binarité qui rassure, en fait. Alors que, finalement, toute la pensée queer, elle est bien plus riche et complexe que ça. Et que, par ailleurs, je pense que c'est important de dire à toutes les personnes en questionnement que c'est OK de douter, en fait. C'est OK de douter, on n'est jamais sûr. On a toujours l'impression d'être un mauvais trans, je mets des guillemets là aussi, mais de ne pas être assez sûr de soi, aussi parce qu'on entend toujours ces narratifs-là de personnes qui sauraient depuis toujours, alors que, enfin, je pense qu'ils sont très peu nombreux en réalité. Et surtout, je ne pense pas que ce soit grave ou moins juste. Il faut être très, très cool avec soi, il n'y a pas de parcours parfait, quoi. Et on n'est pas moins trans ou plus trans parce qu'on aurait fait toute une série d'opérations. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste différentes façons d'être trans.
Ce que j'essaie de faire comprendre
par le texte qu'on a, enfin le manifeste qu'on a écrit ensemble et à plusieurs. Du coup, c'était qu'en fait, c'est pas parce que j'ai pris des hormones et que j'ai une barbe et que voilà que mon visage est plus masculin que en fait je dois effacer mon passé de Gwyn. J'ai envie de, qu'on sache que je suis trans, moi. Si je pouvais me le faire tatouer sur mon compte Instagram, d'avoir mes seins, de garder mes seins et d'être racisée, d'avoir ma barbe, en fait, ça pourrait aider certaines personnes qui, il y a genre 10 ans, se disent bah je suis une transition, bah je vais faire l'opération des seins. Je vais commencer à rentrer dans un truc de masculinité. Mon opération des seins, par exemple, je vais l'annuler parce que je me sens bien avec mes seins. Mais comme j'ai pas de représentation de mec trans arabe avec ses seins et fier d'avoir ses seins et de garder son identité Gwyn, bah du coup je fais quoi, enfin du coup aussi il faut qu'on, moi je pense que ça, faut créer des modèles, en fait personne va le faire à notre place de toute façon. Il y a un spectre de transition mais énorme, en fait chacun est libre de se déterminer comme il a envie.
Il y a des transidentités spirituellement parlant ou dans mon vécu, je n'ai rien à voir avec des personnes hétérosexuelles. Quand t'es un mec trans, sur plein de choses on te dit ferme ta gueule, ferme ta gueule, t'es un mec, ferme ta gueule, tu passes pour un mec, alors qu'en fait genre tu sais ce que c'est, tu le vis encore, t'as encore des traumas, et en fait, on te dit juste de bah ouais, on te rend illégitime.
Toujours dans votre web-série Océan, on vous voit transitionner vers un modèle masculin qu'on pourrait qualifier de prime abord de stéréotypé. La barbe, les biscottos. Pourquoi remettre en question l'attribution des genres, le poids que ça a, et en même temps, physiquement, vouloir correspondre à certains de ces stéréotypes et rentrer dans une certaine case physiquement.
Je comprends que ce ne soit pas évident à comprendre de l'extérieur, et donc je trouve que c'est bien d'en parler, même si c'est vraiment complètement une question 6, ça c'est sûr, à 2000%, mais c'est ok, vous avez le droit de vous poser des questions, tant que c'est bienveillant. Il faut vraiment comprendre qu'avoir un cis-passing, c'est avant tout une mise à l'abri. Moi je dis souvent, faites attention à comment vous adressez aux personnes trans, faites attention à ne jamais questionner leur façon de performer leur genre, parce qu'en fait c'est le discours transphobe en fait, de base, utilisé par les TERF, ce qu'on appelle les TERF, donc les Trans Exclusionary Radical Feminists, donc les mouvements dits féministes, mais qui pour moi sont tous aux féministes, vraiment qui sont anti-trans. Ça fait qu'on est toujours coincé. Sur les femmes trans, c'est flagrant. C'est-à-dire que les femmes trans, si elles sont très féminines ou qu'elles mettent des talons de 12, du maquillage et des décolletés plongeants, on va leur dire tu renforces les codes du patriarcat, les stéréotypes du patriarcat de femmes. Voilà. Et si elles sont en jogging et qu'elles ne font pas d'épilation laser, en fait, on va leur dire tu ne fais pas d'effort, tu n'es pas une vraie femme, et de toute façon, t'es qu'un homme, t'es qu'un travelo, etc. Donc, elles sont perdantes à tous les coups. Et pour les hommes trans, c'est un petit peu, c'est pas exactement la même chose, mais ça y ressemble. C'est-à-dire que déjà, on nous reproche en permanence, en tant que féministe, de transitionner. Enfin, le discours TERF, encore une fois. Hein, c'est-à-dire, puisque tu critiques les hommes et le patriarcat, pourquoi tu vas dans leur camp, je mets des guillemets. Et moi, je rappelle toujours que, en tout cas, moi, je ne considère pas être dans le camp des hommes cis. C'est-à-dire que j'ai une vie, un vécu qui me différencie absolument d'eux et qui mon histoire restera toujours l'histoire du côté des dominés et des discriminés, c'est-à-dire que les discriminations que je vis et qui se sont qui ont empiré à partir du moment où j'ai transitionné, c'est-à-dire qu'en tant que femme lesbienne, je vivais déjà deux discriminations, c'est-à-dire être homosexuelle et femme. Mais quand j'ai transitionné, là, j'ai compris ce que c'était vraiment la transphobie, quoi. C'est sans commune mesure. On n'est pas en sécurité quand on va chez le médecin. On n'est pas en sécurité quand on se retrouve devant des juges qui décident à notre place est-ce qu'ils mettent un M ou un F, est-ce qu'on aura le droit de changer de mention de genre sur notre carte d'identité. Dans plein de situations, on peut se retrouver à avoir peur. On sait très bien qu'à la seconde où on va être découvert, entre guillemets, comme trans, la violence peut se décupler. Donc on est dans un inconfort permanent. On doit en permanence évaluer si on dit qu'on est trans ou pas quand on rencontre quelqu'un, et ce poids-là, même pour les mecs trans qu'on appelle stealth, c'est-à-dire qui ne veulent pas dire qu'ils sont trans, qui même se considèrent comme cis une fois qu'ils ont fait, on va dire, même, je sais pas, une phalloplastie qui fait que même s'ils vont dans des chiottes de mecs, on verra pas que c'est des hommes trans. Finalement, ils vivent avec ce poids-là, avec tout ce parcours, cette trajectoire douloureuse et difficile. Et je sais que les personnes cis ne se rendent pas compte de ce que c'est que la transphobie, puisqu'elles ne la vivent pas. Donc, comme nous, en tant que personnes blanches, on ne peut pas forcément mesurer ce que c'est que le racisme au quotidien. Et c'est parce qu'il y a des personnes racisées qui nous l'expliquent qu'on commence à être un petit peu plus aguerri sur le sujet. Et en ce sens-là, il ne faut jamais oublier qu'avoir un cis-passing, c'est se mettre quand même un peu à l'abri de toutes ces violences-là. C'est-à-dire, c'est pouvoir circuler dans l'espace public sans être menacé. Donc, en ce sens-là, moi, j'ai toujours ne venez jamais commenter, en fait, la façon de s'habiller, je le dis en spectacle, quoi. Même quand bien même, ce serait vraiment super ringard de mettre des chemises bûcherons ou d'avoir des gros muscles derrière la salle tous les matins. Parce que ça n'a pas la même signification du tout que quand c'est un homme cis qui le fait. Et du coup, je trouve que c'est bien de laisser un petit peu... voilà, de laisser la paix un peu aux personnes trans là-dessus. On a tellement de moments qui sont difficiles, pénibles, avec des gens qui nous posent des questions intrusives, surtout quand on est out comme moi. Juste le fait que quand je puisse sortir dans la rue et aller à la boulangerie, on me dise monsieur sans hésiter, franchement, c'est juste des petits moments de répit, quoi. Donc vraiment, cette construction de masculinité, voilà, dans l'expression de genre, dans les fringues et dans le corps, c'est important, je crois, de vraiment pas les questionner, de surtout pas les comparer à un mec cis hétéro qui ferait la même chose, quoi.
On le subit tellement, le jugement, que la seule manière de s'en sortir, je trouve, pour être bien, c'est nous aussi de juger, de dire mais en fait vous êtes vraiment tous des connards et vous vivez dans un truc pourri et vous avez été conditionnés depuis toujours et vous croyez que vous êtes normaux et que vous êtes bien et que vous êtes la ref, mais vous êtes tout pété parce que vous avez même pas rien déconstruit, en fait vous avez pas fait le taf, vous êtes juste laissé faire. Et en même temps, c'est une charge énorme de tout le temps être dans ce rejet là parce que ouais, il y a des cons partout et il y a des gens super aussi partout. Et oui, chacun fait comme il peut. Mais je trouve que c'est un truc qui est lourd à porter aussi. Enfin, au début, ça donne vachement de force.
C'est ça.
Je trouve
ça,
au début, ouais. T'es là, tu rentres dans la commu, tu vois. Moi, ça m'a vraiment fait ça. Genre, enfin, des gens qui te comprennent, des gens qui ont vraiment fait le taf, qui sont hyper brillants et tout. Et tu dis, putain, enfin, j'ai trouvé ma famille et tout. Et on va être entre nous et ça va être cool. Mais en même temps, y a aussi de la violence, il y a aussi des problèmes. Et puis, le reste du monde, si tu le rejettes en bloc, t'es jamais bien, en fait.
C'est ça.
On peut facilement tout rejeter, en fait. C'est pour ça que j'ai toujours été en ville aussi, quoi. Parce que j'étais rassuré, parce qu'il y avait justement des grosses communautés. Et là, je commence à en revenir aussi, parce que je viens d'un bled. Et besoin de me reconnecter à des gens, monsieur et madame tout le monde, en fait, et qui sont monsieur et madame, quoi, voilà, quoi, et qui sont pas peut-être déconstruits, mais en fait, qui ont un cœur aussi.
C'est sûr que ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il y a forcément une forme, je sais pas, c'est pas de l'ambivalence, c'est plus de la complexité, c'est que d'un côté, je revendique absolument mon identité d'homme et être reconnu comme homme parce que c'est ne pas être infériorisé ou moins bien traité. Donc en fait, il y a une nécessité, encore une fois, militante, politique, d'être reconnu comme homme. Et en même temps, je pense qu'il faut totalement abolir les catégories de genre puisqu'elles ne produisent que de la souffrance et des problèmes. Mais entre le projet politique fondamental de mettre fin au genre, qui je pense ça va prendre encore 10 minutes, on a un peu de taf, et moi, ma survie au quotidien et ma possibilité d'être reconnu, respecté, forcément, ça fait un discours qui peut paraître contradictoire, mais qui en réalité ne l'est pas, qui est juste... ma possibilité de vivre ma vie en tant qu'homme. Et évidemment que je revendique mon identité d'homme trans, parce que c'est évidemment un vécu spécifique. Mais selon les contextes, on va dire, je vais insister pour être reconnu juste comme homme, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, c'est toujours, en fait, avec qui tu es, avec qui tu discutes, avec qui tu débats. Si tu es au milieu de personnes transphobes, tu vois, qui te disent « Non, mais t'es pas un vrai mec », alors je vais passer la soirée à leur expliquer que si, et que ça veut rien dire, et que c'est de la merde, et que bien sûr que je suis un vrai mec. Par contre, ça n'empêche pas que je revendique, que pour moi je suis un homme trans avec toute la singularité, parce que mon parcours est singulier, et que je suis fier aussi d'être trans. Donc c'est aussi ça, c'est la fierté trans. L'idée, c'est pas de nier du tout ma transidentité, c'est juste que ça n'empêche pas les gens de me percevoir comme un homme, quoi. Mais je sais que c'est compliqué, hein, c'est pas un truc qu'on peut expliquer en deux secondes et même à comprendre, même pour soi-même, c'est pas forcément... Enfin, ça, pour moi, c'est très clair, mais c'est pas forcément facile de l'expliquer aussi clairement, parce qu'en effet, c'est très lié à l'endroit dans lequel on peut s'exprimer, quoi. Bon, moi, je considère quand même que on est tous amenés à être non-binaires, enfin qu'il faudrait vraiment sortir des catégories hommes-femmes, qu'elles sont inutiles. Et encore une fois, c'est pas parce que je performe une expression de genre stéréotypique, entre guillemets, ou en tout cas classique de mec, que j'en suis pas moins non-binaire dans mon ressenti. Enfin, ça pose la question un peu du festival de c'est quoi être un homme et donc c'est quoi être une femme. Et bon, on n'a pas le temps forcément d'y répondre aujourd'hui, mais en tout cas, on peut avoir des pistes. Moi, il me semble que, enfin, moi j'ai une approche vraiment matérialiste, donc je pense que c'est la somme d'expériences que l'on vit qui fait de nous un homme ou une femme ou ni l'un ni l'autre. Je dis toujours, si demain vous partez vivre dans une grotte dans la montagne sans autre humain, vous n'aurez plus votre identité ne sera pas homme ou femme, elle sera humain face au végétal, face au minéral, et votre réalité quotidienne sera de survivre dans cet environnement, de communiquer, d'apprendre, et plus trop d'être un homme ou une femme. Alors c'est évidemment théorique parce qu'on est, on vit avec d'autres humains, mais c'est juste pour dire que je pense que tout ça est très vite abandonné. En fait, dès qu'on sort de cette façon dont on a de vivre, et on voit bien qu'il y a des sociétés où les gens performent le genre différemment, enfin où tout ça ne veut pas dire grand-chose. Donc ça veut dire beaucoup parce qu'on y est confronté au quotidien et parce que la domination masculine est encore hyper active. Et donc moi je dis pas ça en mode il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, comme on pourrait dire je vois pas les couleurs, parce que ça c'est un discours que je déteste. Il y a évidemment des catégories de genre qui existent. Pour autant, je pense qu'on devrait tous te tendre vers la fin du genre, quoi. Parce que je crois que ça ne profite vraiment à personne. Moi, j'aime beaucoup l'expression qui commence à pas mal circuler dans les milieux militants, qui a été finalement formulée par Juliette Drouard, qui a sorti un livre très, très chouette qui s'appelle « Sortir de l'hétérosexualité », qui parle de personnes sexisées, au même titre qu'on parle de personnes racisées, c'est-à-dire des personnes qui subissent le sexisme. Et il me semble que la catégorie de personnes qui ne subissent pas le sexisme, personnes qui subissent le sexisme, est beaucoup plus juste que homme-femme. Parce que vous pouvez avoir un mec gay très efféminé qui, en fait, l'homophobie, c'est du sexisme. La transphobie, c'est du sexisme. En fait, si on réfléchit, bien sûr, on a des mots spécifiques parce que ça prend une forme particulière. Mais à la fin, c'est toujours le féminin puni, en fait. Hein. C'est le mot. Un mec féminin, c'est qui transgresse, en fait, et qu'en plus, il va vraiment du côté des faibles. Tu vois, je dis ça vraiment, et que c'est pas moi qui le dis, évidemment. En ce sens-là, je considère que mon identité et le groupe auquel j'appartiens, c'est le groupe des personnes sexisées. Moi, j'ai pas accès à la PMA, par exemple. Donc je suis plus discriminée encore que maintenant que la loi est passée, que les femmes célibataires et lesbiennes sur ce point-là. Et je suis autant sujet potentiel aux violences gynécologiques, obstétricales si je suis un enfant, voire même plus.
Dans ton docu, au début, tu dis « je suis fatiguée d'être une femme » et finalement, tu fais ce choix de devenir trans. Finalement, tu tombes dans une autre fatigue, en fait.
Oui, mais ça, de toute façon, cette fatigue-là du sexisme, je l'ai où que je sois, en fait. Enfin, tu vois, c'est comme si tu allumes un autre spot, sur scène, tu as plein de lumières éclairées. Ouais. Quand tu es une meuf, tu as toutes les lumières, et d'un coup, il y a un autre projecteur qui s'allume parce que d'un coup, tu changes de place, tu fais ah.
Je vois que aussi, depuis que tu as transitionné, t'es que avec des gamines, en fait. Ton regard sur les femmes, il a changé.
Non.
Tu choisis des. Si
je choisis des meufs qui dominent à mort, qui sont hyper féministes, qui mettent à l'amende tout le temps, de quoi tu me parles?
Tu sors avec des meufs, 20 ans de moins que toi.
Non, pas 20
qui
ans.
Qui sont toutes tes déesses.
Non.
Tu parles. Si. Non, mais ça veut dire quoi? Donc en fait, tu te places au-dessus
mais
aussi.
Pas du tout, c'est pas
mais
du
si,
tout.
Mais si, tout d'un coup.
Non, déjà, moi,
tu te places comme un homme.
Mais le truc, c'est que t'as l'air trop ringard sur ton scooter.
Mais c'est un scooter non oppressif.
Un de vos prédécesseurs, qui a été interviewé pour ce podcast, parlait du cheminement qu'il est en train de faire sur ses propres désirs et de la manière dont ses propres désirs étaient finalement conditionnés aussi. Est-ce que vous avez fait un travail là-dessus? Est-ce que vous voyez encore des choses que vous avez déconstruites récemment ou qui vous restent, qui sont encore en travail?
Bah, disons qu'il y a les choses qu'on a pu déconstruire théoriquement, intellectuellement, et les choses qui nous traversent émotionnellement, et que c'est pas parce qu'on a déconstruit quelque chose Théoriquement, je pense que toutes les meufs qui s'intéressent sincèrement au féminisme et qui comprennent la douille incroyable que c'est que l'hétérosexualité n'arrivent pas nécessairement à devenir lesbienne du jour au lendemain ou queer. Donc, c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que, enfin, je peux donner un exemple. Moi, je pensais que à force justement de travailler le sujet, de faire un épisode là-dessus et tout ça, j'aurais déconstruit ma grossophobie et qu'en plus, en passant entre guillemets du côté mec, je serais moins complexé, par exemple. Et ça n'a pas du tout marché. C'est-à-dire que c'est tellement ancré en moi, ce truc de, enfin, ouais, de se trouver pas assez bien. Enfin, ce qui est vraiment un truc vraiment qu'on met dans la tête des meufs, en fait. Et je me disais, ah ouais, quand je vais transitionner, j'en aurais plus rien à foutre d'avoir du bide et tout ça, parce que j'ai déconstruit la grossophobie déjà, non, numéro un. Plus les mecs, ils s'en foutent un peu, quoi. En fait, bon, ben, pas du tout. Enfin, je me bats toujours autant là-dessus, tu vois. Donc, c'est marrant parce que je le vois et je vois que c'est absurde et que je devrais m'en foutre. Mais en fait, il y a des choses qui sont tellement marquantes, en fait, que tu les défais pas comme ça, quoi. Donc, en ce sens, si on revient à la question du désir, en effet, à un certain point, tout corps peut être désirable et désiré. Et c'est pas une question, enfin, ce truc de se dire homo, hétéro, bon, perd un peu de son sens, je trouve, quand on transitionne. Et encore une fois, je dis ça. Vous aurez des mecs trans qui vous diront qu'ils sont pédés ou qu'ils sont hétéros, et voilà. Et moi, c'est vrai que ça a ouvert tout d'un coup. Alors, même si finalement, je suis quand même apparemment quand même attiré par les meufs et que ça n'a pas trop changé, parce que pareil, j'ai beau le déconstruire, ça ne veut pas dire qu'après, dans mes pratiques ou dans ma vie quotidienne, ça a changé. Mais j'ai beaucoup de copains qui, par exemple, sont devenus gays, en fait, qui étaient lesbiennes, parce qu'en fait... ce qui supportait pas, c'est d'être désiré comme femme, en tant que femme, et que c'était impossible en fait pour eux, quoi. Donc ils pouvaient pas être avec des hommes. Et quand ils ont été perçus comme hommes, quand ils ont eu le corps qui leur allait bien, en fait, ils ont pu se reconnecter à ce désir. Et aussi parce que être PD, c'est aussi être, enfin, il y a un côté politique aussi, quoi. C'est vrai, c'est être queer, c'est être dans un autre endroit. En tout cas, il y a un truc d'ouverture, voilà, qui est forcément qui arrive. Oui, c'est sûr qu'on a un regard sur les corps qui évolue, quoi.
Mais un homme trans est automatiquement un homme féministe ?
Ben, I wish. Malheureusement, parfois, je vois des transmasques qui sont vraiment cons comme pas possible et qui reproduisent complètement des stéréotypes, voilà, d'attitude avec les meufs qui sont vraiment assez tristes. Après, bon, bah, c'est toujours pareil, je les pardonne plus que les mecs cis parce que je sais que ça vient aussi de traumas et de violences qu'ils ont intériorisées, voilà, et que c'est pas la fête en réalité. Ça les excuse pas, parce que c'est jamais ok de mal se comporter avec une meuf, et y compris pour les meufs lesbiennes, tu vois, il y a des violences. J'aimerais que tous les hommes trans, en tout cas, ne se coupent pas du groupe, encore une fois, du groupe des personnes sexisées, puisqu'ils y sont, quoi, en fait. Ce sont des stratégies de survie que de reproduire des masculinités hégémoniques, en gros. Mais bon, ça me fait de la peine à chaque fois que j'entends parler d'un transmasque qui fait de la merde ou qui dit des trucs sexistes, parce que je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, bah, on est des humains comme les autres, et donc il y a des cons partout, et il y a aussi des cons chez les personnes transgenres, hein, ça c'est sûr.
Vis-à-vis de la déconstruction du patriarcat et des attributions de genre, une mesure concrète qui vous viendrait, quelque chose que vous auriez envie de mettre en œuvre ?
Ah bah c'est très simple, moi j'enlève la mention de genre sur tous les papiers d'état civil, ça n'a aucunement lieu d'être, quoi, ça sert à rien. Il y a une époque où il y avait la race, pour vous dire, sur les papiers d'identité, on a bien compris que ça n'était pas normal, et on l'a enlevé, et donc c'est pareil, en fait, on n'a pas besoin, pour identifier quelqu'un, de savoir son sexe, et donc ça permettra déjà à toutes les personnes inter, non-binaires, voilà, d'avoir la paix, et je pense qu'en fait... Ça fera du bien à tout le monde, quoi, qu'on arrête de genrer tout le temps, de mettre, surtout en France, c'est spécialement catastrophique à cause de notre langue, quoi, qui est tellement voilà, on ne peut pas s'empêcher de dire bonjour monsieur, bonjour madame, et que les gens ont l'impression qu'ils vont mourir s'ils peuvent plus dire juste bonjour. Je comprends pas très bien en quoi c'est un problème, mais ok. Et puis dès qu'on veut dire à quelqu'un un adjectif, on est obligé de voilà. Donc on l'entend à l'oral que si c'est féminin ou masculin, donc on a un petit peu de boulot sur la langue. Mais je pense que j'espère que de mon vivant, je verrai cette mesure arriver où on enlèvera, ce qui n'empêche pas de à la naissance qu'on puisse qu'il y ait des traces, des documents éventuellement, mais qu'ils ne soient pas des documents publics, quoi. Enfin, je veux dire, quand on prend le train, l'avion, que tu te fais arrêter par les flics, qu'est-ce que ça peut faire, en fait, monsieur ou madame, si ce n'est un outil de domination? Donc je pense que c'est assez simple à appliquer, ça ne coûte pas cher, et ça prend 2 secondes, et franchement, ça peut déjà être une bonne étape.